Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se penche sur l'affaire d'Ahmad Al-Mahdi, condamné le mois dernier à 9 ans d'incarcération par la Cour pénale internationale pour avoir détruit le patrimoine culturel du Mali. Le 27 septembre, la chambre de première instance de la CPI a reconnu Ahmad Al-Mahdi coupable du crime de guerre consistant à avoir dirigé intentionnellement entre juin et juillet 2012 des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique, y compris 9 mausolées et une mosquée à Tombouctou, au Mali. Janvier 2012, un conflit armé fait irruption au Mali et différents groupes armés réussissent à prendre le contrôle du nord du pays. En avril 2012, les forces maliennes se retirent et Ansar Eddine et Acmi prennent le contrôle de la ville de Tombouctou où ils imposent jusqu'en janvier 2013 leurs exigences religieuses et politiques, moyennant un tribunal islamique, une police islamique, une commission des médias et une brigade des mœurs appelée Hezba. Originaire d'Agoun, à l'ouest de Tombouctou, Ahmad Al-Mahdi était une personnalité active pendant l'occupation de Tombouctou. Porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah, revient sur le rôle joué par ce dernier dans le contexte de l'époque.
Considéré comme un spécialiste des questions religieuses, Ahmad Al-Mahdi était consulté en cette qualité, y compris par le tribunal islamique. Il était très actif dans certains domaines de l'administration mise sur pied par Ansar Eddine et Acmi. Il a dirigé la Hezba depuis sa création en avril 2012 jusqu'à septembre 2012, il a rédigé un document sur le rôle et les objectifs de celle-ci. Fin juin 2012, le chef d'Ansar Eddine a pris la décision de détruire les mausolées en consultation avec deux membres importants d'Acmi. Consulté par le gouverneur de Tombouctou, avant que cette décision ne soit prise, Ahmad Al-Mahdi avait estimé que les juristes islamiques étaient unanimes sur l'interdiction de toute construction sur une tombe. Mais qu'il valait mieux ne pas détruire les mausolées pour préserver les relations entre la population et les groupes d'occupation. Tout de même, la décision a été prise et les instructions ont été données à Ahmad Al-Mahdi, en l'occurrence chef de la Hezba. En dépit de ses réserves initiales, Ahmad Al-Mahdi a accepté sans hésitation de mener l'attaque lorsqu'il en a reçu l'instruction. Il a rédigé un serment consacré à la destruction des mausolées qui a été lu lors de la prière du vendredi au lancement de l'attaque. Et il a personnellement décidé de l'ordre dans lequel les bâtiments devaient être attaqués. L'attaque elle-même a été menée entre le 30 juin 2012 environ et le 11 juillet 2012. 10 des monuments plus importants et les plus connus de Tombouctou ont été attaqués et détruits par Ahmad Al-Mahdi et d'autres personnes. Tous ces biens étaient consacrés à la religion et étaient des monuments historiques et ne constituaient pas des objectifs militaires.
Ahmad Al-Mahdi supervisera l'exécution des opérations de destruction des monuments culturels, justifiera les attaques par des entretiens avec la presse et participera personnellement à la destruction d'au moins 5 monuments. Au final, Al-Mahdi a été condamné à 9 ans de prison pour ses crimes. Les juges de la CPI ont pris en compte son aveu de culpabilité et ses remords, ainsi que sa coopération avec la Cour en dépit des risques que cela pourrait représenter pour sa famille au Mali. Le verdict a été largement salué par la communauté internationale. Mais quelle a été la réaction sur place à Tombouctou? On écoute Lassane Cissé, directeur national du patrimoine culturel du Mali.
Le verdict, je crois qu'il est mesuré. C'est un premier cas de jugement, en tout cas de décision de patrimoine à ma connaissance. Vu les circonstances dans lesquelles le jugement s'est passé, c'est-à-dire Al-Fassi a demandé pardon, moi, je crois que c'est mesuré, quoi. C'est mesuré. Le premier enseignement, c'est que les gens, de mon point de vue, prennent conscience de la valeur et de l'importance du patrimoine. Parce que le patrimoine culturel, c'est l'homme lui-même, c'est son identité. On ne doit pas détruire une identité culturelle, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Le patrimoine est devenu un enjeu de guerre, j'allais dire. Donc, sa protection, je crois que tout le monde a compris ça, la nécessité de protéger ce patrimoine et de transmettre aux générations futures. Alors, en Afghanistan, ils ont détruit des sites importants comme Bamiyan. Le second cas, c'est au Mali. Ils ont des conflits. Donc, l'Irak, la Syrie, c'est connu. Ils ont détruit Palmyre, des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et des trésors des musées de l'époque mésopotamienne qui ont été emportés. Donc, c'est pourquoi je parle d'enjeu. D'enjeu de guerre, parce que on veut faire disparaître des traces de civilisation, faire croire qu'il y a une seule culture, celle de l'islam, qui doit prévaloir. De tout ce plan, je ne parle pas. Oui, ils vont faire attention parce que si vous voulez dominer des gens, vous détruisez leur patrimoine, comment vous allez les dominer? C'est ça, les faire disparaître. Donc, ils feront désormais, de mon point de vue, contrairement à ce que d'autres gens pensent, ils feront attention au patrimoine, ils ne vont plus le détruire. Hein, parce que si on veut dominer quelqu'un, il ne faut pas s'attaquer à sa culture.
Pour certains, condamner la destruction du patrimoine culturel malien ne suffit toutefois pas. La justice doit aussi trancher sur d'autres cas emblématiques du conflit au Mali. On écoute Abdoulaye Touré, coordonnateur régional des victimes de Tombouctou.
Nous poussons un petit ouf de soulagement, enfin que quelqu'un se retrouve à la CPI qui soit condamné. Mais je m'en vais vous dire que pour cette condamnation, je crois vraiment que le jugement a été quelque part négocié entre les parties. Sinon, on s'attendait quand même à des peines plus lourdes. Vit vraiment les dégâts causés ici à Tombouctou. Et d'autre part, je m'en vais aussi vous dire qu'on aurait souhaité quand même que ce procès ne se limite pas, ce verdict ne se limite pas seulement à cet aspect, et qu'il y a un deuxième aspect de la chose, les autres charges, que la CPI puisse en prendre compte des charges concernant les violences sexuelles, les mariages forcés et tout ce qui est extensif pendant l'occupation. Et en troisième point, nous aurons aussi souhaité que la CPI puisse prendre en compte, sinon faire des mesures réparatrices pour les collectifs de ces familles détenteurs de ces mausolées, pour que Tombouctou soit récompensé de façon collective, et pour qu'on puisse avoir peut-être un musée pour l'histoire de ces mausolées. Et donc nous attendons de la CPI que des mesures réparatrices suivent après ces verdicts.
Une position également étayée par Amnesty International par la voix du directeur du bureau de l'ONG au Mali, Salif Fofana.
Ce qu'il faut d'abord encourager, c'est vraiment d'une façon vraiment de lutter contre l'impunité. Et au-delà vraiment de cet acte également, nous, les défenseurs des droits humains, nous pensons qu'on aurait dû souhaiter encore aller plus loin pour le cas d'un litige stratégique. Autrement dit, les cas emblématiques là, c'est-à-dire les cas de viol, de torture, de disparition, vous voyez un peu d'agression sexuelle. C'est cela qui peut beaucoup influencer la population. Parce que, une fois, ces genres de cas vraiment sont très attendus par la population du Mali. Donc, mais c'est un exemple, un devis. Peut-être c'est pour un peu nous montrer l'engagement de la communauté internationale à lutter contre la torture. Alors, mais vraiment, nous, quand même, on est resté encore un peu sur notre faim. Parce que d'autres grands malfaiteurs encore ne sont pas encore saisis. Alors, il faudrait vraiment qu'on arrive à les traduire. Quelqu'un qui a fait beaucoup de crimes par rapport au viol, par rapport à la torture. Aujourd'hui, si c'est ce cas, ça laisse donner plus d'engouement aux médias, ça laisse donner encore plus encore d'impact parmi la population malienne également. Donc, moi, je pense qu'on reste un PMP sur notre fin encore par rapport à ça. C'est bien, c'est un débit, mais ce débit-là, il faut d'abord que, pour le cas du Mali, qu'il cherche vraiment les cas emblématiques. Les cas emblématiques, là, nous, ça nous intéresse, nous, les défenseurs des droits humains. C'est 9 ans de prison et bon, ce n'est pas mauvais, mais ce qui est important pour nous, c'est surtout la lutte contre l'impunité. C'est ce concept qui nous intéresse, nous, en tant que défenseurs des droits humains.
Mais pour l'UNESCO, le verdict rendu dans l'affaire Al-Mahdi est historique car il marque la fin de l'impunité pour la destruction de biens culturels, comme l'explique Lazare Elundu, directeur du bureau de l'UNESCO au Mali.
Nous sommes dans cet état d'esprit où nous constatons que cette décision vraiment marque la fin de l'impunité pour les crimes de destruction du patrimoine culturel et que c'est vraiment une étape majeure de l'affirmation de la justice internationale quand il s'agit de destruction délibérée comme celles qui ont eu lieu à Tombouctou. Mais je devrais aussi dire que cette justice qui a été rendue est un pas supplémentaire vraiment pour la paix et la réconciliation au Mali. C'est une première étape, c'est une étape qui montre que aujourd'hui toute personne qui détruirait de manière délibérée des biens si importants qui appartiennent à une communauté et que ces biens font partie d'un élément central qui structure la vie de ces communautés ce type de destruction est considéré comme un crime de guerre. Et c'est aussi une manière de prévenir les destructions qui pourraient arriver dans d'autres circonstances et dans d'autres régions également. Ce qui est important, c'est que justice a été rendue. Les communautés de Tombouctou et du Mali, de manière globale, ont vu ce procès aller jusqu'au bout. Et donc, il y a un grand pas pour tous les efforts de relèvement, de paix, de réconciliation qui sont en cours aujourd'hui au Mali et que la communauté internationale soutient.
Des propos également relayés par la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova.
Cet engagement, la paix, la réconciliation au Mali avec tous les efforts des forces du maintien de la paix passe aussi par la protection du patrimoine. Et ça me rappelle ma visite l'année dernière, il y a déjà un an, où j'ai lancé la reconstruction des mausolées à Timbuktu. Et j'ai vu pas seulement la joie, mais l'émotion profonde de la communauté locale. Et j'avais l'impression que si j'ai redonné leur identité aux Tombouctiennes, c'était une émotion tout à fait particulière.
Pour l'UNESCO, la protection de la culture peut aussi contribuer à la paix. Et sa directrice générale plaide d'ailleurs pour qu'une composante culture soit dorénavant intégrée au sein des missions de maintien de la paix de l'ONU.
Cette question, qui est une question nouvelle, je dirais, pour nous, c'est un enjeu nouvel, est de plus en plus acceptée par le Conseil de sécurité et par aussi les parties prenantes dans le maintien de la paix. Le cas du Mali est tellement évident avec la destruction de Timbuktu et Gao et certaines autres Kidal, certains autres lieux étaient occupés par les extrémistes avec la destruction délibérée. C'est un exemple, à mon avis, très évident de l'importance du patrimoine, de la culture pour la paix et pour la réconciliation. Pour moi, dans ces cas, la question n'est pas seulement de repousser les extrémistes, c'est pas seulement de regagner le terrain. La question, c'est comment maintenir vraiment la paix et comment mobiliser aussi les communautés locales autour de cette notion de la paix, de la diversité. Et ça passe à travers la protection du patrimoine.
Mais à une époque qui a vu la destruction de nombreux sites du patrimoine de l'humanité, on ne saurait non plus négliger l'importance de l'éducation et de l'appréciation de l'histoire. Irina Bokova.
Nous plaidoyons pour que le patrimoine, les compétences culturelles, l'histoire, les sciences humaines, sociales soient intégrées dans les curricula, des cursus, des écoles. Nous considérons qu'aujourd'hui, avec la globalisation, avec tout ce qui se passe au monde, il faut plaidoyer pour une éducation. Mais quelle éducation? Et c'est une éducation aussi de qualité, c'est une éducation pour le respect des droits humains, c'est une éducation dont les compétences culturelles soient intégrer comme une partie importante, clé. Et comment vivre ensemble dans un monde globalisé, ça doit être aussi l'objectif de l'éducation. Et je crois que ce message doit être pas seulement diffusé, mais il faut faire des choses concrètes. Nous avons aussi beaucoup de travail, on continue de travailler sur l'évaluation des curricula dans beaucoup de pays. Le nouveau projet, c'est l'Irak, où le gouvernement nous a demandé de voir et d'éliminer tout d'abord le langage de la haine, de l'intolérance, d'introduire le respect, la diversité culturelle et aussi les sciences humaines, comme nous disons, et l'histoire et le patrimoine comme un levier des valeurs et comme un levier de réconciliation et finalement de la paix.
Et c'est avec l'appel d'Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.